seulement de recevoir notre louange, notre adoration, nos prières, quelles qu'elles soient, digne que nos cœurs s'épanchent devant lui, mais il est le seul dont la parole reste digne d'être reçue par tout homme, car c'est une parole de vie, c'est une parole la seule qui reste incorruptible. Cette parole reste et demeure une semence, la seule qui soit capable de nous régénérer et de nous faire ressembler à lui, de nous transformer, de nous transfigurer de gloire en gloire. Alors, préparons-nous, tendons-lui une oreille attentive, éloignons de nous toute pensée de distraction, concentrons-nous sur lui, que par sa parole il puisse véritablement nous arroser, que nous repartions avec des cœurs remplis de sa parole. Qu'en cet instant, alors que nous nous tenons devant lui, nous nous asseyons à ses pieds, que tout notre être puisse vibrer pour lui, que nous ayons véritablement faim et soif de sa parole. Alléluia. Nous bénissons ton nom pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Nous savons combien, Seigneur, ta parole est puissante, combien elle est efficace, combien ne retourne jamais à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est proclamée. Nous avons tous besoin, Seigneur, de changement. Il y a en nous des choses qui empoisonnent, qui intoxiquent notre existence. Il y a encore des gens parmi nous, Seigneur, qui sont esclaves de toutes sortes de choses, qui essayent par eux-mêmes de se libérer de toutes ces choses terribles, mais qui n'arrivent pas, Seigneur. Mais ce matin, par ta parole, que tu leur accordes cette force dont ils ont besoin pour pouvoir, ô Dieu, pour pouvoir s'extraire de cette emprise, soit des passions charnelles destructrices, soit de l'influence du monde, soit, Seigneur, de l'influence de l'ennemi. Oh, que par ta parole tu puisses nous transformer, nous faire rayonner de ta gloire. Que ta parole puisse, ô Dieu, être bien reçue dans nos cœurs, qu'elle accomplisse l'œuvre de la grâce, qu'elle nourrisse notre foi, qu'elle nous aide, Seigneur, à aller de l'avant, à poursuivre notre course, en ayant nos yeux fixés sur toi, en ayant nos cœurs attachés à toi. Que ta parole nous aide, Seigneur, à rester dans ce cortège triomphal que tu conduis depuis le jour où tu as envoyé ton Saint-Esprit sur cette terre, depuis que tes premiers disciples, Seigneur, se sont levés pour proclamer cet évangile du royaume, cet évangile qui est puissance pour le salut de quiconque croit. Depuis, Seigneur, tu es à l'œuvre et nous prions pour que l'action de ton Esprit au travers de ta parole, sois puissante en nous. Nous voulons avoir une foi qui est nourrie constamment par ta parole. Seigneur, une vie dont ta parole reste son seul levier. Garde-nous de toute tradition morte des hommes. Garde-nous de toute superstition, Seigneur, quelle qu'elle soit. Garde-nous de fausses croyances et de fausses pratiques que l'ennemi utilise pour séduire ton peuple et l'entraîner loin de toi. Que nos cœurs restent attachés uniquement à ta parole et à ta parole seule. Celle que nous trouvons dans les saintes écritures. Celle, la seule qui a le pouvoir de nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin pour poursuivre notre marche avec toi, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis ton serviteur, chargé, Seigneur, de l'annoncer, de la proclamer. Donne-lui l'intelligence de l'esprit, renouvelle, Seigneur, son entendement, donne-lui la sensibilité de l'esprit en même temps. En même temps, Seigneur, bénis ton peuple. Donne-lui cette capacité de recevoir ta pensée. Non seulement de la recevoir, Seigneur, mais aussi de la mettre en pratique. Car c'est la mise en pratique de cette parole qui nourrit véritablement notre foi et lui permet, Seigneur, ô Dieu, d'occuper toute la place qui lui revient en nous et de nous aider à aller de l'avant avec toi. Bénis-la dans notre cœur, bénis-la dans notre esprit, dans notre âme, bref, dans tout notre être, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Notre méditation de ce dimanche matin est donc tirée du livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, les quatre premiers versets, nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, courons avec persévérance ou endurance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur, l'initiateur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Gloire à Dieu. Quand la foi nous fait courir, je voudrais, puisque il y a deux semaines ou deux dimanches successifs, nous avons parlé du royaume et du règne de Dieu, nous avons épinglé deux principes fondamentaux qui gouvernent, qui gèrent, mes amis, ce royaume. Il est donc important que nous revenions à ce qui rend possible, même le fait de donner, ce qui rend possible le fait de travailler en respectant le caractère sacré du travail, à savoir la foi qui nous fait courir. Alléluia. Tel est donc notre thème de ce dimanche matin. Ce chapitre 12, frères et sœurs, vient à la suite du chapitre 11. Chapitre 11 qui nous donne, qui nous dresse la liste de ces hommes et de ces femmes qui se sont illustrés dans leur marche avec le Seigneur, la liste des hommes et des femmes qui ont marqué, mes amis, l'histoire de l'humanité, non pas par la notoriété qu'ils auraient reçu de la part du monde, non à cause de leur célébrité, mais des gens qui ont marqué l'histoire, qui ont laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire de l'humanité par leur vie de foi. Alléluia. Ces gens ont vécu, ces gens ont eu affaire à toutes sortes d'épreuves, ces gens ont rencontré toutes sortes d'adversités, ils ont eu à faire face à la tribulation, ils ont rencontré la souffrance sur leur passage, ils ont eu affaire à toutes sortes d'obstacles, ils ont rencontré des tempêtes dans la vie, ils ont eu affaire à des adversaires qui étaient plus puissants qu'eux, mes amis. Bref, ils ont rencontré toutes sortes de combats, ils sont passés par toutes sortes d'épreuves. Mais à travers toutes ces épreuves, ces hommes, mes amis, dont la vie reste dressée devant nous comme un mémorial vivant, ces hommes, eh bien, et ces femmes ont tenu ferme jusqu'au bout à cause de leur confiance inébranlable dans la personne de Dieu. Alléluia. Mais aussi à cause de la place qu'ils avaient donnée à la promesse que Dieu leur avait faite. La place qu'ils avaient donnée à la parole de Dieu dans leur vie. C'est ainsi que ces hommes, mes amis, sont allés de l'avant et ont expérimenté de choses extraordinaires, ont vécu des expériences, eh bien, extraordinaires. Tout cela à cause de la foi. Après nous avoir dressé cette liste de ces hommes et de ces femmes dont la vie a été activée par la foi, de ces hommes et de ces femmes qui ont couru, mes amis, non pas par leurs efforts dans la vie, mais par la foi en Dieu, par une confiance totale dans la parole de Dieu, l'auteur arrive au chapitre 12, où il dit que, puisque nous sommes environnés de tous ces témoins-là, puisque nous avons devant nous l'histoire de ces hommes comme Abraham, Un homme qui a marché par la foi, qui a expérimenté l'accomplissement de la promesse de Dieu par la foi. Puisque nous sommes environnés de témoins comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse, comme tous ces patriarches, comme David, comme Gédéon. Mes amis, ces hommes et ces femmes qui ont expérimenté des choses extraordinaires, des gens qui ne savaient plus quoi faire lorsqu'il n'y avait plus rien à faire, mais qui ont quand même fait quelque chose, puisque nous sommes environnés. Étant donné que nous sommes entourés de ces gens-là, eh bien, courons, alléluia, courons l'épreuve qui est ouverte devant nous. Allons de l'avant, mes amis, sans nous laisser distraire, sans que rien nous empêche d'avancer, sans que rien entrave notre marche vers la gloire, notre course vers l'éternité. Gloire à Dieu. Ces hommes ont été, mes amis, influencés en bien par la parole de Dieu. Ces hommes ont eu une foi inébranlable dans la parole de Dieu. C'est ce qui les a amenés à expérimenter de choses. Et le chapitre 12 nous invite, mes amis, nous invite à passer à l'action. La véritable foi est une foi dynamique. On ne peut pas être rempli de cette foi et rester les bras croisés et tourner en rond et stagner dans la vie. Pas du tout. Lorsque cette foi est là, elle nous pousse à l'action. Alléluia. Elle nous amène à vivre par elle. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes une communauté de foi. Nous sommes nés, mes amis, par la foi et au travers de l'action de Dieu, par la foi. Et nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas courir si nous ne sommes pas remplis de cette foi. Passer à l'action. Être actif. En ces débuts d'année, je voudrais, mes amis, que chacun de nous comprenne qu'il y a encore plusieurs mois devant nous. Plusieurs mois qui doivent être considérés comme des opportunités pour pouvoir poursuivre notre course par la foi. Courir dans la carrière qui est ouverte devant nous. Courir. Voilà un verbe que l'apôtre Paul affectionne en particulier. Voilà un verbe, mes amis, que nous devrions conjuguer au présent tout au long de cette année. Courir. Courir sur cette voie que le Seigneur a tracée pour chacun de nous. Peu importe les obstacles, la Bible nous donne un impératif. La Bible nous encourage à aller de l'avant, à courir. Puisque si nous ne courons plus, si nous ne nous laissons arrêter par tel ou tel autre obstacle, si nous n'avons plus de ressources suffisantes pour continuer notre course, mes amis, eh bien nous allons nous retrouver en train de stagner. Et la stagnation est un danger mortel pour le chrétien. Le chrétien est appelé à avancer. Le chrétien est appelé, mes amis, à aller de l'avant, à courir, gloire au Seigneur. Car la stagnation, le fait de tourner en rond, le statu quo, reste une véritable menace pour notre foi. Dieu nous demande de courir. Dieu nous demande d'aller de gloire en gloire. Et ceci est rendu possible par ce verbe « courir » que nous sommes appelés à conjuguer. La stagnation, le ralentissement, le fait de marquer le pas pour finalement s'arrêter, eh bien, quelque chose de terrible, mais aussi quelque chose qui nous guette tous. C'est une menace qui est présente, voyez-vous. Beaucoup aujourd'hui ne sont nulle part dans la vie chrétienne parce qu'un jour, ils se sont arrêtés. Comme je l'ai dit une fois, ils ont voulu mettre une virgule à leur marche, et avec le temps, ils ont oublié que si la virgule traîne, il y a un point qui se met au-dessus, ça devient quoi? Un point virgule. Et si nous continuons, eh bien ce point virgule risquerait de devenir un point. Et marquer un arrêt, voyez-vous? Un arrêt dans notre marche avec le Seigneur. Certes, nous pourrions nous retrouver en train de venir à l'église. Nous pourrions nous retrouver en train de prier. Nous pourrions nous retrouver en train de faire des choses, mais qui serait simplement de choses religieuses. Voyez-vous? Le danger qui nous guette, mes amis, c'est de faire de notre relation une tradition. Voyez? Et beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ne sont nulle part. Aux yeux des humains, ben, ce sont des gens de foi. Parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils assistent à des réunions, parce qu'ils font des prières, parce qu'ils donnent, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils font des pèlerinages à gauche à droite, et ils pensent ainsi avancer sur cette voie que le Seigneur a tracée. Mes amis, il n'y a aucune tradition, aucune croyance qui puisse nous permettre d'avancer avec le Seigneur, si ce n'est la foi en lui. Et cette foi-là n'a rien à voir avec la chrétienté dans son ensemble. Voyez-vous? Aujourd'hui, comme d'ailleurs, depuis toujours, l'ennemi a toujours utilisé la religion pour essayer de distraire l'homme. Cette religion qui reste, même la religion dite chrétienne, qui reste un véritable narcotique, un vrai soporifique pour la conscience morale et spirituelle de l'homme. Voyez-vous? C'est ainsi qu'on trouve un peu partout des croyances que les gens respectent et des traditions qui amènent dans la plupart des cas les gens, qui amènent les gens à croire qu'ils sont arrivés au sommet de la sainteté, qu'ils sont arrivés au sommet de leur marche avec le Seigneur, alors qu'en réalité ils sont distraits. Ils s'éloignent, chaque jour qui passe les éloigne davantage. Et quelquefois, on ne peut mieux parler que de sa maison, oui ou non. Nous sommes un des produits du protestantisme. Et quelquefois, je suis choqué de voir qu'avec le temps, ici chez nous, le protestantisme se religiose. On se retrouve avec des traditions mortes, de gens habillés, je ne sais comment, et qui parlent avec arrogance, avec suffisance. Certains ont besoin de repentance. Voyez? Qui parlent de choses, qui essaient de se mettre en évidence. Nous devons prêcher l'évangile du Christ, qui appelle les gens à la repentance vraie, mais aussi à une communion intime avec le Seigneur, qui marche dans la plénitude de l'Esprit. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise pasteur. Qu'est-ce que je n'ai pas suivi comme bêtise à la télévision? On confond tout, l'histoire du pays avec l'histoire de la Bible. Pour justifier certaines positions qui n'ont rien à voir, on essaye de faire sortir les textes bibliques hors de leur contexte. Voyez-vous? J'ai même entendu un dire, nous devrions avoir une constitution dite chrétienne. C'est référé à l'histoire occidentale en disant les pays qui avancent, ce sont des pays qui ont compris que la clé de l'économie, c'est Jésus. Mais ça fait combien d'années nous prions? C'est le même Jésus et pourtant nous sommes sur le plan économique, eh bien nous ramons. La foi. La Bible nous encourage à courir. Car si nous ne courons pas, mes amis, nous allons nous arrêter. Nous allons faire du statu quo, reculer, régresser. Donc nous sommes appelés, encouragés à poursuivre notre course par la foi et dans un esprit de foi, alléluia. Car la vie par la foi ne tolère aucun régime de misère, ne tolère, mes amis, aucune excuse. Aucun laisser-aller. C'est une vie qui demande beaucoup de consécration. C'est une vie, mes amis, qui nous amène à être stricts dans notre propre vie, à rejeter tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Quand bien même cela viendrait de nos propres parents, quand bien même cela viendrait de gens pour lesquels nous avons beaucoup de respect et de révérence, si cela n'est pas conforme à la parole, nous le rejetons avec force. Gloire à Dieu. Ce sont des choses qui distraient et qui empêchent les gens de courir dans la foi parce que ces choses leur donnent une religion et une fausse espérance. Voyez? Et amènent les gens à courir après des positions. On s'ébarre. Voyez? On ne sait plus ce qu'on veut faire. On s'ébarre. Un pied dans la politique, un pied dans l'église. On est comme des espèces de chauves-souris. Ni souris, ni oiseau. selon le point de vue. Si vous les examinez à partir de leurs ailes, vous dites quoi? Ce sont des oiseaux. Mais quand vous regardez leur tête, vous dites, mais ce sont de véritables souris. Dieu n'aime pas le mélange. Et toutes ces croyances, mes amis, nous alourdissent, nous empêchent d'avancer. La Bible est claire. Nous devons nous débarrasser de tout fardeau. Alléluia. Nous devons nous débarrasser, combattre le péché qui a cette capacité démoniaque de nous enlacer si facilement. Le péché qui a cette capacité, satanique de nous séduire si facilement. Combattre ce péché, comme d'ailleurs l'auteur lui-même le dit, vous n'avez pas encore combattu le péché jusqu'au sang. C'est un combat, mes amis. Et l'ennemi essaye par tous les moyens de nous distraire et de nous faire croire que, d'après tout, nous ne sommes que sauvés par grâce. Voyez-vous? Par grâce. La grâce ne veut pas dire libertinage, licence, que puisque nous sommes sauvés par grâce, nous devrions faire tout ce que nous voulons. Pas du tout. Tout ce que nous faisons, soit ça nous aide à poursuivre notre course, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, ou soit alors ça nous alourdit, ça nous empêche d'avancer. Et lorsque nous n'avançons plus, mes amis, bien que nous ayons l'impression qu'après tout, bon, c'est peut-être un moment de repli, un moment de pause, en réalité, nous reculons. Tout ce qui ne nous fait pas avancer, nous fait reculer. Nous devons courir, courir par la foi. Mais cette course ne peut être rendue possible que si nous avons des objectifs devant nous après lesquels nous courons. Alléluia. Sans objectif, vous ne pourriez pas courir. Sans un cap clair, mes amis, sans une direction clairement tracée, sans des objectifs, sans un but ou des buts devant nous, il nous sera impossible de courir. C'est pourquoi l'auteur insiste sur le fait que nous devrions avoir nos yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui est devant. Et dès lors que nos yeux, mes amis, se déplacent du Christ, eh bien c'est fini. C'est fini. Nous nous laissons distraire. Et petit à petit, nous allons nous éloigner. Donc la vie par la foi a besoin d'avoir des objectifs devant. Voyez-vous, la vie par la foi a besoin, mes amis, de faire de progrès, d'aller de victoire en victoire. Mais pour cela, nous devons avoir des objectifs clairement définis devant nous. Nous devons être sûrs qu'il y a des défis devant nous à relever. Sans cela, il nous sera difficile d'avancer. Il nous sera difficile, même impossible, de remporter de victoire. Il faut que nous ayons des objectifs. Et au début, alors que nous sommes encore au début de cette année, comme je le soulignais il y a quelques jours d'ici, il est important que chacun de nous comprenne qu'il n'est pas encore tard de se fixer des objectifs en rapport avec le royaume de Dieu. De se fixer des objectifs après lesquels, eh bien, nous allons courir. Car sans objectif, nous risquons de tourner en rond. Et même venir ici à la borne risquerait de devenir simplement comme à une tradition, une habitude. Voyez, spontanément, ah, c'est dimanche, je vais à la borne. Voilà. Voyez. Mais avec des objectifs, nous comprendrons que venir ici est une nécessité. Car en venant ici, nous venons nous nourrir. Nous venons manger la parole de Dieu. Nous venons nous imprégner de la présence de Dieu. Nous venons, mes amis, pour être enseignés. Nous venons pour nous encourager mutuellement. C'est de cette manière que nous allons recevoir de ressources. Nous allons recevoir la force qui nous permettra de poursuivre notre course. Gloire au Seigneur. Nous devons donc nous fixer des objectifs. Et le plus grand objectif qui va nous permettre de courir, de poursuivre notre course par la foi, cette course de la foi, eh bien, l'objectif ultime, c'est celui qu'avait l'apôtre Paul. Que nous dit-il? Il dit, mon but, c'est de le connaître, lui. Alléluia. Connaître le Seigneur. Voilà le but ultime après lequel chacun de nous devrait courir. Si tu ne mets pas devant toi cet objectif-là, eh bien, tu risquerais, avec le temps, de te décourager. Car dans la vie, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des buts pour pouvoir avancer. D'ailleurs, l'écrivain allemand Goethe l'a dit, l'homme ne vit que s'il est tendu vers. Voyez ? L'homme ne vit que s'il aspire à quelque chose. Mais aspirer à quelque chose suppose qu'il y a des objectifs devant, oui ou non ? Oui. C'est ça qui va nous tirer vers le haut. C'est ça qui va nous amener à aller de gloire en gloire. C'est ce que ce verbe sous-entend, mes amis. Avoir des objectifs devant nous, après lesquels nous allons nous mettre à courir. Amen. Avoir des objectifs devant nous, et puis voir comment, quelle stratégie personnelle pourrions-nous avoir pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Mon but est de le connaître et d'expérimenter la puissance de sa résurrection. C'est ainsi qu'il dira aux Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens chapitre 9, « Moi donc je cours. » Alléluia. L'apôtre courait et tout au long de sa vie il a couru. Les héros de la foi ont appris à courir tout au long de leur vie et au terme de leur course, ils sont entrés dans la gloire. Lorsque les portes du ciel se sont ouvertes, mes amis, ces héros ont été accueillis avec la joie dans l'allégresse céleste, dans la joie extraordinaire, au point où leur vie, mes amis, parle encore aujourd'hui, bien qu'ils soient morts depuis des siècles. Aujourd'hui, leur vie nous parle, parce que leur vie a été une vie de foi. Et la foi se conjugue toujours au présent. Voyez-vous ? La foi ne peut pas se conjuguer au passé. Puisqu'elle est intimement liée à Dieu, à celui qui se révèle au travers des Écritures comme étant le « Je suis ». Alléluia ! Dieu a la foi. C'est pourquoi il appelle à l'existence de choses non existantes. Alléluia. Il nous connaissait, mes amis, avant même que nous venions sur cette terre. S'il nous connaissait, eh bien, il connaissait aussi notre parcours, les différents obstacles qui allaient jalonner notre existence. Et s'il n'a pas ôté ces obstacles, c'est parce qu'il a quelque chose à nous apprendre au travers d'eux. Alléluia. S'il a laissé ses difficultés se pointer, se dresser devant nous, c'est parce que, mes amis, il n'y a rien à faire. Ce sont ces difficultés-là qui vont nous aider à grandir dans notre foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce sont ces difficultés qui vont modeler, qui vont forger notre caractère, qui vont nous permettre de développer une personnalité digne du Seigneur. C'est ainsi que l'auteur parle de courir avec persévérance. De courir avec endurance, ce n'est pas facile, mon frère et ma sœur. Mais ça n'a pas été facile non plus pour le Seigneur, quand il est venu dans un corps semblable au nôtre. Il a rencontré toutes sortes de contrariétés. Il a été méprisé. Il a tout connu. Mais la Bible nous dit qu'il a méprisé la honte. Il a supporté la croix. Et à la croix, il a tout pris. C'est ainsi qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Au terme de cette course, mes amis, il y a tant de choses qui nous sont réservées. Voyez, courir dans la carrière qui est ouverte, courir avec persévérance, par la foi, en ayant nos yeux fixés sur le Seigneur qui est l'initiateur, qui est l'auteur, qui est celui qui engendre la foi, la vraie foi. Voyez-vous, les gens ne reçoivent pas la foi lorsqu'ils adhèrent à une religion, même monothéiste. Les gens ne reçoivent pas la foi lorsqu'on leur verse quelques gouttes d'eau sur leur tête. Les gens ne reçoivent pas la foi dans un couvent, ni dans un séminaire, encore moins dans une institution biblique, quelle qu'elle soit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. En d'autres mots, sans Jésus, il n'y a pas de véritable foi. Il y en a qui ont mis leur foi, entre guillemets, leur croyance dans la personne d'un prophète, dans la personne d'un ange, ce sont des gens maudits. Maudit quiconque se confie dans l'homme. Voyez-vous? C'est ainsi que vous verrez des gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu, en même temps qu'ils vont consulter les marabouts, qui vont chercher des gris-gris à gauche, à droite. Eh bien, leur foi est une foi théorique. Parce que s'ils avaient véritablement foi en Dieu, ils auraient compris qu'avec Dieu, la victoire est possible. Que lorsque lui est pour nous, personne ne sera contre nous. Et que toute arme forgée contre nous, par le sorcier, toute arme forgée contre nous, par les démons, toute arme forgée contre nous, par ceux qui ne nous aiment pas, toute arme forgée contre nous, par nos adversaires, quels qu'ils soient, lorsque Dieu est avec nous, ces armes sont sans... Alléluia. Et quand on est rempli d'une telle parole, mes amis, on n'est pas inquiété. Quand bien même on sort et qu'en route on rencontre quelqu'un avec une tête de... la tête d'une poule, en train de vous menacer, vous allez sourire. Vous n'allez pas vous mettre à courir après une tête de... Pas du tout. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui a amené la personne à tuer la poule. Celui qui est en vous, celui qui est pour vous, est plus fort que cet esprit de mensonge qui a amené la personne à croire que lorsqu'on a la tête d'une poule ou d'un coq, lorsqu'on a le sang, je ne sais de quel animal, eh bien, on devient puissant. Mais cet animal-là, avant d'avoir son sang, il meurt, non? Comment voulez-vous qu'un animal qui est mort pour te donner son sang puisse te venir en aide ou te communiquer la force? Pas du tout. Il n'y a qu'un seul qui est mort, mais qui est ressuscité. Celui-là et celui-là seul peut nous communiquer la force. Jésus, alléluia. Les gens doivent entendre dans le savoir. Voyez, nous devons courir. C'est une invitation. Et nous n'avons pas de choix. Voyez-vous? C'est un impératif. Courons! Gloire à Dieu. Comment? Avec persévérance. Pourquoi devons-nous persévérer? C'est parce que, mes amis, cette course ne se fait pas toujours dans les conditions qui nous seraient meilleures. L'ennemi cherchera par tous les moyens, mes amis, à se mettre en travers de nous. L'ennemi cherchera par tous les moyens de nous décourager, par la persécution, par toutes sortes de tribulations. Essayera par tous les moyens de nous distraire par les choses du monde, n'est-ce pas? Par le plaisir, par tout ce qu'il y a dans le monde. Il essaiera par tous les moyens, par la souffrance. Oh, combien souffre encore ce matin au milieu de nous, mon frère et ma sœur, si tel est ton cas. Quelle que soit la nature de cette souffrance, persévère. Lui a souffert avant toi. Aie confiance en lui. Cette course vaut la peine, mes amis, d'être faite, car à son terme, c'est la gloire avec lui. C'est la couronne pour l'éternité. Alléluia. C'est plus que le paradis. C'est lui-même. Notre récompense. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Voyez-vous? C'est une chose de courir par la foi, mais c'en est une autre, mes amis, d'aller jusqu'au terme de sa course. C'est pourquoi l'auteur fait référence à cette nuée de témoins. Il commence par nous dresser la liste de gens qui ont appris à courir avant nous. Alléluia. Et il souligne qu'ils ne l'ont pas fait dans des conditions qui leur étaient favorables. Au contraire, tous ont connu des moments difficiles. Abraham a attendu pendant longtemps l'accomplissement de la promesse selon laquelle sa femme, malgré son âge, allait donner naissance à un enfant. Ça n'a pas été facile, oui ou non? Gloire au Seigneur. Oui. Que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit David ou Gédéon, ces gens ont rencontré des obstacles. Ces gens ont connu toutes sortes de problèmes. Que ce soit les premiers disciples de Jésus, les apôtres et ceux qui sont venus à leur suite, à travers toute l'histoire de l'Église, nous trouvons des hommes et des femmes qui ont couru, mes amis, dans des conditions difficiles, Certains y ont même laissé leur vie. Ont été de véritables martyrs. Mais ils sont entrés dans la gloire. Ils sont allés se reposer. Nous devons, mes amis, courir comme des véritables athlètes et non pas comme des amateurs. Voyez-vous, car dans ce domaine-là, eh bien, il est important de se soumettre aux règles qui gèrent cette course. Voyez, nous devons faire preuve de professionnalisme dans ce domaine-là. Car un professionnel de la course, eh bien, s'il veut réussir sa course, doit d'abord prendre cette course au sérieux. Il a un objectif, c'est de remporter la course. Alléluia. C'est d'avoir une médaille d'or, c'est de voir son nom inscrit dans le Guinness Book des records. Vous voyez? Il a donc un objectif. Et il prend au sérieux sa course. Il prend au sérieux sa préparation. Durant sa préparation, eh bien, il s'impose toutes sortes de disciplines. Voyez-vous? Il fait tout pour être prêt. Il fait tout. Il veille à son régime. Il veille, bref, à ce que tout se passe dans les meilleures conditions qu'il soit au niveau de la préparation, afin que le jour arrivé où il devra se lancer dans la course, qu'il n'y ait rien, absolument rien, qui l'entrave, qui l'empêche d'avancer. Voyez, qu'il n'y ait rien qui puisse l'alourdir. Le jour où il se lance dans la course, il va mettre des chaussures. D'ailleurs, il y a des chaussures qui sont faites pour ce genre de meeting, ce genre de course, oui ou non. Voyez, ils ne mettent pas n'importe quelle basket. Les dames ne courront jamais avec leurs hauts talons. Oui ou non? Ouais. Donc, il y a des chaussures adaptées, des chaussures appropriées. Voyez, ils mettent une tenue la plus légère possible, qui ne puisse pas les freiner dans leur élan. Ouais. Ils font tout, mes amis, pour optimiser leurs chances de gagner la course. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils veillent à leur régime. En agissant de cette manière, ils font preuve de professionnalisme. Il en est de même, mes amis, de nous. La foi exige une discipline stricte. Alléluia. La foi nous impose, mes amis, une certaine hygiène de vie morale et spirituelle. Nous ne pouvons pas courir si nous trouvons encore du plaisir à tripoter avec le péché, à nous vautrer dans certains péchés. Voyez-vous, ne soyons pas comme les Galates à qui l'apôtre a dit, vous couriez si bien, qui vous a arrêté. Vous couriez si bien, vous avez bien commencé, mes amis, mais qu'est-ce qui a fait qu'en cours de route, vous vous arrêtiez? Effectivement, ils avaient bien commencé en recevant l'évangile du Christ comme étant le message libérateur, le seul message de salut. Le seul message qui justifie l'homme aux yeux du Créateur. Oui, l'Évangile, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Aucune religion ne peut justifier un homme. Voyez-vous? Aucune, mes amis. Vous pouvez consacrer toute votre vie à la religion. Vous pouvez vous mortifiez pour la religion. Vous pouvez, mes amis, vous imposer toutes sortes de choses pour la religion. Vous pouvez ne pas vous marier à cause de la religion, mais ce n'est pas ce célibat imposé ou auto-imposé qui va vous justifier aux yeux de Dieu. Vous pouvez, mes amis, faire toutes sortes de choses. Aucun rite. Et ça, c'est le cœur du message de l'Évangile. Il n'y a aucun effort qu'un homme puisse faire, que ce soit sur le plan moral ou religieux, qui puisse, mes amis, le rendre juste aux yeux du Créateur. Nous avons la justification à partir de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur. Les Galates avaient commencé par là. Et puis ensuite, après avoir reçu Jésus, ils ont compris la nécessité de marcher par le Saint-Esprit, de courir avec et par le Saint-Esprit, alléluia. Mais avec le temps, Ils se sont ouverts à d'autres influences, notamment des judaïsants, de ce disciple, de ce chrétien, qui essayait d'ajouter des rites juifs à la parole de Dieu, qui demandait aux gens, certes, vous croyez en Jésus, mais Jésus plus la loi. Voyez-vous, vous devez vous faire circoncire si vous êtes des garçons, vous devez faire ceci, vous devez vous laver, passer par toutes les ablutions, comme cela se faisait dans le judaïsme à l'époque. Voyez. Et petit à petit, mes amis, ils ont commencé à subir cette influence venant de la religion, et en se tournant vers toute cette pratique, toutes ces croyances religieuses, ils ont commencé, mes amis, à tourner le dos à l'esprit. Et Paul leur dit, vous avez si bien commencé. Vous vous êtes lancé dans la course. Vous avez bien démarré, alléluia. Mais en cours de route, vous voilà en train de vous arrêter. Vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Mes amis, nous nous sommes lancés dans cette course, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller jusqu'au terme de cette course. Il y aura des obstacles entre nous. Il y aura des difficultés, il y en a déjà dans la vie de certains. Il y aura toutes sortes de choses qui chercheront, mes amis, à nous empêcher dans cette course. Mais de grâce, ne baissez pas les bras. De grâce, mes amis, n'abandonnez pas. S'il vous arrive de trébucher, relevez-vous, mes amis. Car un vrai athlète, un athlète professionnel, quand il lui arrive de trébucher, il ne reste pas couché. Non. Il se relève, car il sait qu'il a encore la chance de rattraper les autres. Alléluia. C'est peut-être ton cas, tu as trébuché. Tu es tombé dans un péché quel qu'il soit. Mon frère et ma sœur, Dieu est fidèle. Dieu est juste. Pour t'accorder son pardon, si tu te repens et si tu sollicites son pardon. Alors ne reste pas couché. La grâce de Dieu est encore là. Toi qui m'entends ce matin ici, toi qui m'entends à travers différents médias et qui te reproche de quelque chose, ta conscience t'accuse. Tu n'es pas à l'aise. Et l'ennemi profite de cette situation pour t'accabler davantage, pour te montrer combien tu es indigne de Dieu, combien tu devrais même tout abandonner. N'écoute pas ces mensonges. Dieu est bien fidèle. Dieu est amour. Et en revenant à Jésus, il va te pardonner. Demande pardon là où tu es. Jette-toi à genoux et sollicite le pardon de Dieu. Tu as trébuché. Eh bien, ne reste pas dans cette position. L'ennemi pourrait profiter pour venir t'écraser davantage. Relève-toi, car ton Christ est là devant toi. Alléluia. Il n'éteint jamais le lumignon qui fume, oui ou non. Il ne l'éteint jamais, mes amis. Il va tout faire. Il va encore mettre de l'huile afin que cette lampe brille normalement. Voyez-vous, Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Dieu est amour. Si nous nous repentons, si nous sollicitons son pardon dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu que nous prêchons va nous pardonner. Alléluia. Non seulement il va nous accorder son pardon, mais il va nous laver, il va nous purifier, il va nous débarrasser de toute iniquité, de toute souillure. Car c'est une chose de recevoir le pardon, ce n'est une autre d'être débarrassé des impacts du péché en nous. Des traces du péché dans chacun de nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans la course normale, dans l'athlétisme par exemple, il est strictement interdit de recourir à des produits dopants. C'est comme ça qu'on fait des contrôles, souvent des contrôles inopinés. On vient, que ce soit les cyclistes, que ce soit tous les athlètes, quel que soit le type de course dans lequel ils sont appelés à se lancer, il y a des médecins qui viennent et qui choisissent des gens pour leur faire passer des tests qui donnent les gens donnent leur urine et on va examiner. Si vous avez pris de produits dopants, c'est-à-dire qui vous donnent la force, voyez, de courir plus que les autres, sans vous fatiguer, vous allez être disqualifié, oui ou non. Vous avez tous suivi l'histoire de cet Américain, Armstrong, je crois, de cet Texan. 5 fois qu'il a remporté le Tour de France. La première fois, tout le monde a crié, c'est extraordinaire. Cet homme qui sort d'un cancer, quel courage, quelle force de caractère, oui ou non, quelle personnalité. Et puis la deuxième fois, il remporte la course. La troisième fois, formidable. La quatrième fois, oh là là, on n'a jamais vu de coureur comme lui. Et puis la cinquième fois, tout le monde a applaudi. Mais vous savez, tôt ou tard, le péché finit toujours par vous atteindre. Et il va se trouver que l'homme se dopait. Il a été disqualifié. Hein? Post-eventu, évidemment, après l'événement. On lui a tout repris. Ce qui est terrible, c'est qu'il devait rembourser tout l'argent qu'il avait gagné. Vous voyez? Donc, c'est interdit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans notre course, les produits dopants sont acceptés. Car dans cette course, personne ne peut la poursuivre en comptant uniquement sur ses propres efforts. En comptant uniquement, mes amis, sur sa capacité à courir. En comptant sur ses compétences. Dans cette course, les produits dopants spirituels sont acceptés. Alléluia. D'ailleurs, nous n'avons pas d'autre choix. Car dans cette course, et à propos de cette course, la parole de Dieu déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais bien par mon esprit. Donc on a besoin de cela, de ce produit dopant. Quels sont ces produits dopants qui vont nous donner la force de continuer? Eh bien, c'est d'abord et avant tout la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Avant que les apôtres se lancent dans cette course, avant qu'ils se lancent dans cette vocation de prêcher la parole de Dieu partout, le Seigneur leur a dit, quant à vous, attendez d'abord dans Jérusalem, jusqu'à ce que le Père accomplisse sa promesse, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, vous recevrez la puissance venant du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas courir véritablement, mes amis, affronter différents obstacles si vous n'êtes pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce produit dopant, mes amis, commence par la plénitude du Saint-Esprit. C'est le secret de tout. Et par rapport à cette plénitude, eh bien, d'autres éléments importants, c'est que nous devons nous nourrir constamment des vitamines qui viennent du ciel. Alléluia. Ce que d'aucuns ont appelé les Vitacris. Ces vitamines-là, on ne les trouve pas dans des flacons d'huile d'olive. Enlevez cela de votre tête. Ces vitamines-là, on ne le trouve pas dans les mains, je ne sais, de quel pasteur, de quel évêque, de quel surévêque. Ces vitamines-là, on ne le trouve pas aux pieds, je ne sais, de quel ange. Ces vitamines, oh Dieu est bon. Car si ces vitamines se trouvaient aux pieds de l'ange Gabriel, il lui fallut encore savoir où il se trouve pour courir après lui. Oui ou non? Puisqu'un ange n'est pas omniprésent. Il lui fallut être tout le temps aux aguets. Non, on apprend qu'il est à Massina. Alors vous vous rendez compte, le gens de la borne, ici Upen, se met à courir pour aller chercher ses vitamines. Oui? Eh bien, en passant, il y a parole du salut qui se met. Voyez, tout le monde se met, mais il y aurait un embouteillage, un carambolage incroyable. On risquerait même de ne pas arriver. Parce que quand vous arrivez, il y a au moins 10 000 autour de lui. Et vous tombez, ça fait effet domino là. Oui. Ces vitamines, nous le trouvons dans sa parole. Alléluia. Il n'y a pas de secret. Mangez la parole, vous mangerez les vitamines. Alléluia. Les vitamines dont vous avez besoin pour, mes amis, être prêts à poursuivre la course. Parce que ces vitamines-là nourrissent la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Pas de la parole d'un curé, pas la parole d'un pasteur, fût-il celui de la borne, mais la parole du Christ, toujours Jésus, encore Jésus, et Jésus pour l'éternité. La parole, mais aussi, nous l'avons mangée, nous avons aussi d'autres vitamines, vous savez, qu'on ne peut recevoir que directement dans sa présence. Et là, nous voyons la prière. Il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir manger, recevoir toutes ces vitamines de la part du Seigneur, tout ce vrai produit dopant, si nous n'apprenons pas à nous nourrir de la parole de Dieu. Si nous n'apprenons pas, mes amis, à chercher la Pentecôte, à la vivre, mais aussi à être constamment renouvelés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit, si nous n'apprenons pas à nous nourrir de la parole de Dieu, à la manger régulièrement, alléluia, gloire au Seigneur, la parole et la parole seule. Voilà, mes amis, le cocktail qui nous permettra d'être en forme, en pleine forme, de remplir les conditions les plus optimales pour pouvoir courir dans cette vie par la foi. Amen. Courir dans cette vie par la foi, la plénitude de l'Esprit ou le Saint-Esprit. Mes amis, avant de terminer, ce qui a été consigné dans le livre des Actes reste pour nous d'une grande inspiration. Si nous voulons aller plus loin, nous devrions nous inspirer, mes amis, de la vie de ces hommes et de ces femmes dont il est question dans le livre des Actes. Car ce livre nous parle, évidemment, c'est une photographie, à un moment bien précis, de l'histoire de l'Église, car Dieu a agi au-delà, voyez-vous, de ce que le Saint-Esprit avait commencé à faire après que le Seigneur soit rentré auprès du Père. À travers tout le livre des Actes, le Saint-Esprit est bien présent. C'est lui qui assiste l'Église ou qui assistait l'Église et qui la soutenait dans sa marche, dans sa course vers la gloire. Et à propos de ça, écoutez ce que Luc nous dit, l'auteur du livre des Actes, le médecin bien-aimé. Il nous dit dans Actes 9, verset 31, que l'Église s'édifiait, l'Église progressait par le soutien et l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on parle de l'Église, on ne parle pas d'une organisation religieuse. On ne parle pas d'une institution humaine. L'Église dont il est question, c'est l'ensemble de ces hommes et de ces femmes nés de nouveau. Eh bien, ces hommes et ces femmes allaient de l'avant, progressaient, eh bien, poursuivaient leur course par l'assistance et par le soutien du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu! Ces gens ont appris à privilégier le Saint-Esprit dans leur rapport personnel, mais également au niveau de la communauté. Ils avaient appris à rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Nous parlons de la Pentecôte. C'est une réalité. Sans le Saint-Esprit, nous sommes nulle part. Nous pouvons avoir un extérieur qui reflète quelque part le spirituel, mais être loin du Seigneur. La marche, la course par la foi n'est rendue possible que par une proximité de plus en plus grande avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ces gens ont appris à travailler avec le Saint-Esprit. Ces gens ont appris à passer du temps avec le Saint-Esprit, non seulement sur le plan communautaire, alléluia, mais aussi sur le plan individuel. Chacun avait réalisé qu'il ne pouvait pas aller loin dans cette course, qu'il ne pouvait pas affronter les obstacles par ses propres forces, car il savait, non seulement à partir de l'enseignement des apôtres, mais aussi à partir de l'Ancien Testament, que ce n'était ni par la force, ce n'était ni par les compétences humaines, ce n'était ni par les moyens matériels qu'on pouvait faire quelque chose dans le cadre de l'œuvre de Dieu en nous, par nous et au travers de nous, mais plutôt par son Esprit et par son Esprit seul. Alléluia. Ils ont appris à travailler avec le Saint-Esprit, d'abord pour connaître Dieu. Paul disait, mon but est de le connaître, amen, connaître Jésus. Mais vous ne pouvez pas connaître Jésus sans le Saint-Esprit. Ça, il faut que nous le disions. Paul écrivant aux Corinthiens leur dit, nul ne connaît l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. Nul ne connaît de choses concernant Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas aller plus loin, mes amis, si vous n'entrez pas dans une communion intime avec le Saint-Esprit. C'est par lui que nous pouvons connaître Dieu de manière surnaturelle. La connaissance de Dieu, c'est plus que mémoriser tous les versets. La connaissance de Dieu, c'est plus que, mes amis, passer par des ordres religieux. La connaissance de Dieu, c'est plus qu'avoir le nom de Dieu dans la bouche. C'est plus qu'être plongé dans un baptistère. Voyez-vous ? La connaissance de Dieu. Un gecko peut par malheur passer sur le livre de Karl Marx sans devenir un vrai communiste. Oui ou non? Un lézard, à partir de la toiture d'une église, peut assister à une eucharistie, peut assister à une réunion comme celle-ci et ne jamais devenir ni catholique ni pentecôtiste. Voyez? Donc connaître Dieu est une expérience. Vous pouvez regarder au loin. Voyez-vous? Vous connaissez peut-être des choses sur Dieu. Le diable le connaît. C'est un grand théologien. Vous savez ça? Un très grand théologien qui sait manipuler la parole de Dieu. Hein, voyez? L'utiliser pour nous avoir. Combien aujourd'hui justifient leur immoralité par la parole de Dieu? J'ai même appris qu'il y a des églises où on permet aux gens d'avoir 3-4 femmes. Que chacun reste dans l'état où il était. Vous voyez? C'est incroyable. Pourquoi seulement dans le domaine des femmes que chacun reste dans son état? Pourquoi on ne dit pas au drogué qu'il reste dans sa drogue? Pourquoi on ne dit pas au voleur de rester dans son vol? Mais quand il s'agit des femmes, il dit ah! Que chacun reste. Alors tous ceux qui ont grandi dans des traditions polygamiques et tout ça, se retrouvent dans ce genre d'enseignement. Il y en a même qui prennent 3-4, après ils vont se convertir là. Et puis quand on leur dit, non, vous pouvez les garder, ok, c'est vraiment. Non, nous devons faire attention. Oh là là, le temps passe. Connaître Dieu de manière surnaturelle, par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le connaître de manière surnaturelle sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, les mystères de la foi chrétienne, par exemple l'incarnation de Jésus, par exemple sa mort expiatoire à la croix, les différents miracles qu'il a accomplis, sa résurrection d'entre les morts, mes amis, ne peuvent être véritablement compris que par la puissance du Saint-Esprit. Voyez, même quand nous parlons de Trinité, bien que ce mot ne figurant pas dans la parole de Dieu, c'est un concept qui est là. Tout ça, nous ne pouvons le recevoir que par la révélation. Ces choses ne sont pas une sorte de brimade intellectuelle, quelque chose qu'on nous impose. Voyez, allez, comme ça. C'est comme ça, non. C'est par révélation. Alléluia. Et oui, nous avons besoin non seulement de connaître Dieu de manière surnaturelle par le Saint-Esprit, mais nous avons besoin aussi de communiquer avec lui de manière surnaturelle. Eh bien, la vraie prière, c'est celle que nous faisons par et au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et enfin, nous devons combattre avec Dieu par le Saint-Esprit. Voyez-vous, il n'y a rien dans la vie du chrétien qui puisse être fait sans que le Saint-Esprit ne soit dedans, ne soit au commencement. Alors, mon frère et ma sœur, puisque nous sommes environnés, je voudrais demander à chacun de nous d'incliner sa tête dans la prière. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, eh bien, la Bible nous demande d'aller, de courir par la foi, en nous débarrassant de tout ce qui nous alourdit, en rejetant tout fardeau, en nous débarrassant du péché qui nous enlace si facilement. Voyez-vous, et en ayant nos yeux fixés sur le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce message. Ton message nous concerne, car tu nous appelles à courir par la foi. Tu nous appelles, Seigneur, à nous lancer dans cette course, non pas en nous appuyant sur nous-mêmes, en comptant sur nos expériences ou nos ressources ou nos compétences, quelles qu'elles soient, nos capacités, quelles qu'elles soient, mais plutôt, Seigneur, en nous appuyant sur ton esprit, car c'est la plénitude de ton esprit en nous. Seigneur, entretenu par une vie d'obéissance à ta parole, mais aussi par une vie de prière régulière, qui va nous donner, ô Dieu, la force, la capacité de poursuivre notre course, quel que soit le contexte. Bénis cette parole, ô Dieu, et donne-nous, Seigneur, d'aller de l'avant, de demeurer dans cette course, que rien ne nous arrête, que la persévérance puisse nous caractériser, qu'aucune difficulté nous arrête, dans le nom de Jésus. Merci, merci pour tout. Merci également, Seigneur, pour la grâce, le privilège de pouvoir te donner notre offrande, notre dîme, afin de contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton règne, à l'avancement de ton œuvre, ici, Seigneur, à la borne, dans notre pays, au Dieu et au-delà de nos frontières. Bénis et sanctifie ce service, alors que les paniers vont passer, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.